en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, merci infiniment, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, je me répète, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, cher Monsieur le Ministre, voilà, Mesdames et Messieurs les académiciens, bien entendu. Eh bien, dans la nuit du 20 au 21 mai 1981, une révolution très pacifique a eu lieu à l'Élysée sous le premier septennat de François Mitterrand, sans que l'opinion ne s'en soit vraiment rendue compte. En effet, à la faveur d'une légère modification du gouvernement de l'époque, le traditionnel ministère de l'Information se trouvera brusquement débaptisé et devint, avec Georges Filliou à sa tête, le ministère de la Communication. Il ne s'agissait pas d'un pur caprice présidentiel, mais bien au contraire d'un réajustement sémantique important, car depuis quelques années déjà, les plus grandes entreprises françaises, ça n'est pas mon voisin, le président Gattaz, qui me contredira, les plus grandes entreprises françaises avaient transformé leurs services d'information, souvent appelés services des relations publiques, en direction de la communication, même en abrégé DIRCOM, en abandonnant définitivement l'ancien vocabulaire utilisé jusqu'alors. Il faut croire que l'auteur de cette modification avait été visionnaire, puisque depuis plus de 33 ans maintenant, ce ministère n'a jamais changé de nom, sauf à être accouplé assez souvent, et encore aujourd'hui, à celui de culture, ce qui ne laisse pas de paraître légèrement saugrenu à beaucoup de bons esprits. On peut bien entendu se poser la question de savoir si ces deux termes, information et communication, ne sont pas les deux faces d'une seule et même réalité. L'ambiguïté de certaines formules, comme par exemple « communiquer une information », pourrait leur donner raison. Mais notre propos consiste ici à tenter de convaincre les sceptiques qu'il existe bel et bien une spécificité de la notion de communication et qu'elle n'a que peu à voir avec l'information. Depuis Théophraste Renaudot et sa célèbre gazette, l'information appartient au journalisme et son but consiste à faire parvenir à ses lecteurs, devenus aujourd'hui des auditeurs ou des téléspectateurs, des nouvelles, soit grâce à l'imprimerie, soit grâce aux ondes radiophoniques ou télévisuelles, l'information doit être sévèrement encadrée par une déontologie rigoureuse, avec un impératif catégorique, ne dire que la vérité et rien d'autre. Votre compagnie a de tout temps accueilli avec beaucoup de bienveillance ces informateurs que sont les journalistes, qu'ils soient éditorialistes ou chroniqueurs, toujours soucieux de ne dire que la vérité, comme naguère Raymond Aron, Henri Amouroux, Louis-Martin Chauffier, ou aujourd'hui François Dorcival ou Alain Duhamel, mon voisin immédiat. Voilà. On ne saurait confondre les communicateurs avec des journalistes. Leur statut n'est pas le même, leur rôle est différent, nous allons tenter de le prouver ici, en délimitant une fonction qui n'est pas évidente. Mais d'abord, essayons de définir correctement le mot même de communication. Ouvrons le vocabulaire de Lalande, vénérable réceptacle de tous les concepts philosophiques. Surprise, le mot n'est pas recensé, ni vraiment défini. Il est vrai que l'ouvrage date de 1926, mais il y a eu de nombreuses rééditions, et toujours pas le mot communication. Alors, référons-nous au plus récent dictionnaire philosophique, celui d'André Comte-Sponville, une réédition est de septembre 2013, là s'étale la définition suivante. La communication est l'échange de signes, de messages ou d'informations entre deux ou plusieurs individus, j'ajouterai pour ma part peut-être, ou groupes humains. L'auteur ajoute ce commentaire, elle ne vaut jamais par elle-même, mais seulement par son contenu ou son résultat. Une sottise, c'est M. André Comte-Smolut qui parle, hein, ça. Une sottise répandue à des milliers d'exemplaires reste une sottise, et une idée vraie ou forte dans la tête d'un seul ne cesse pas pour autant d'être vraie. Quelle que soit mon estime pour ce brillant philosophe, permettez-moi d'observer ici qu'il ne peut s'agir d'un seul individu gardant sa propre pensée pour lui-même. Il ne s'agit plus du tout alors de communication. On est en présence de ce que le général de Gaulle aurait appelé une coxigrue, une absurdité qui lui a échappé. Si l'on veut revenir à l'étymologie de la communication, il faut savoir qu'elle est entrée dans notre langue au XIVe siècle, en Grèce, en 1369, et qu'elle désignait au départ la mise en commun. C'est plus tard qu'elle a pris le sens d'une relation avec autrui, de relation interpersonnelle. Daniel Bougnou, à qui l'on doit de très nombreux travaux sur la communication, précise que le sens le plus courant reste d'établir une relation avec autrui. Il ajoute « ce terme recouvre trop de pratiques nécessairement disparates, indéfiniment ouvertes et non dénombrables » pour que qu'on puisse donner une définition vraiment exhaustive de ce concept. On peut la définir aussi comme la transmission d'une information ou de connaissances avec l'appui des sciences cognitives. Elle vise l'interaction de l'homme non seulement avec autrui, mais aussi avec son environnement, hommes, animaux et même végétaux. Ces lignes sont de Dominique Volton, à qui l'on doit d'ailleurs très récemment un ouvrage qui s'intitule « Informer n'est pas communiquer », l'édition du CNRS, en 2014. En un survol rapide de l'histoire de la pensée humaine nous aidera peut-être à mieux délimiter ce vocable. Et tout naturellement, nous remontons au communicant par excellence, à Socrate. Il communiquait à la fois avec des esclaves, à qui il faisait dire des choses étonnantes, grâce à sa pratique de la maïeutique, l'accouchement des esprits, et réfutait, grâce à sa célèbre ironie, les doctrines des sophistes, dont il réduisait cruellement la rhétorique en cendres, grâce à son habileté dialectique. Sa communication était donc imparable, et les 38 dialogues où Platon met en scène son maître constituent la base même de notre sujet. Mais était-ce bien sûr? N'y a-t-il pas dans ces échanges un véritable dialogue de sourds? C'est un beau match entre deux adversaires féroces, Socrate et le sophiste, mais n'y aurait-il pas un malentendu dans cette communication socratique ou platonicienne? Chacun des deux adversaires reste dans son camp. Il s'agit plus de deux monologues parallèles que d'un véritable dialogue. La devise de Socrate n'était-elle pas le gnotiseoton, le connais-toi toi-même? Et nos deux philosophes n'ont-ils pas eu tendance à suivre leur propre pensée plutôt qu'à vraiment échanger avec autrui? Socrate était un penseur génial, mais sa philosophie reste univoque, personnelle, exclusive de tout recours à autrui. Plus qu'un dialogue, c'est une sorte de monologue face au discours des sophistes et personne n'arrive à connaître vraiment l'existence de l'autre. Au fond, Socrate soliloque plus qu'il n'échange avec ses interlocuteurs ou ses contradicteurs. La communication au sens actuel du terme n'est pas encore née au siècle de Périclès. L'est-elle 2000 ans après? C'est-à-dire si nous sautons du 5e siècle avant Jésus-Christ au 16e siècle français, le 16e siècle de notre ère. Je pense ici à Montaigne, qui déclare d'emblée « Je suis moi-même la matière de mon livre ». Malgré son immense chagrin à la mort de son meilleur ami Étienne de la Boétie, l'auteur des Essais reste enfermé dans une tour d'ivoire, sens même physique du mot, dans sa librairie, qui est une vraie tour de pierre, et ne parvient guère à communiquer avec ses proches, pas même avec ses administrés, lui, le maire de Bordeaux. Nous n'aurons pas plus de chance avec Descartes, lui aussi enfermé dans son poêle, où il découvre son cogito qui le condamne au solipsisme. Certes, il est sûr d'être lui-même, d'avoir une âme plus aisée à connaître que le corps. mais il doute de l'existence d'autrui qu'il ne connaît que par analogie avec lui-même. La solitude de... La solitude de Montaigne ou de Descartes nous renvoie à Paul Valéry, qui a pu dire, qu'il nous laisse tous les deux, l'image d'un magnifique et mémorable moi, mais pas celui du toi. Avec le cartésianisme, l'existence d'autrui reste conjecturale, pour parler comme Malebranche. Et Leibniz, dans sa monadologie, va soutenir que la monade n'a ni porte ni fenêtre. La communication paraît difficile à définir dans ces conditions. Le XVIIIe siècle sera le siècle des Lumières, l'époque par excellence des salons, des conversations les plus brillantes, mais ni Kant en Allemagne, ni Voltaire, Diderot ou Rousseau en France ne se sont vraiment posé la question de l'existence d'autrui tout en se passionnant pour le progrès humain et pour les idées les plus avancées du point de vue social. Il faut donc attendre le XIXe siècle pour qu'un Auguste Comte pose en principe son vivre pour autrui et qu'un Kierkegaard, ce très grand philosophe d'un tout petit pays, le Danemark, jette les bases de l'existentialisme et de la phénoménologie en se posant enfin la question de l'existence de l'autre. Hegel sera le premier philosophe rationaliste, je parle sous la caution de notre président, qui est le plus grand hegelien de France. Hegel sera le premier philosophe rationaliste classique à se poser lui aussi le problème de la communication avec autrui. On peut dire que la question du rapport avec l'autre ne cessera plus de se poser à travers tout le XIXe et tout le XXe siècle. Grâce à ces trois contemporains d'abord, les premiers à avoir vraiment clairement défini le rapport à autrui, que sont Freud, né en 1856, Bergson, né en 1859, sont des contemporains, et Husserl, la même année, qui n'ont jamais abandonné ce problème majeur. Peut-on correspondre vraiment avec autrui? La communication psychanalytique avait fait faire d'énormes progrès à cette problématique, au moment même où Bergson mettait au point l'intuitionnisme qui permet, selon lui, de pénétrer à l'intérieur d'autrui dans ce qu'il a, c'est Bergson qui parle, dans ce qu'il a d'unique et par conséquent d'irremplaçable. Ou de connaître avec une âme nue et ingénue, pour parler comme Husserl, l'être profond d'autrui. Se succèdent alors les Max Scheler, Nature et forme de la sympathie, en 1927, Heidegger avec Zeitgeist, la même année, Gabriel Marcel, toujours la même année, son journal métaphysique, 1927, puis Sartre avec l'être et néant, en 1943, où Monseigneur Maurice Nédoncel, doyen de la faculté de théologie catholique de Strasbourg, dans La réciprocité des consciences, c'est sa thèse qui est apparue la même année, 1943, évidemment elle a fait moins de bruit que L'être et néant, qui ont tous cherché à prouver l'existence métaphysique d'autrui. Notre communication avec autrui a donc fait l'objet d'études nombreuses et sérieuses, prouvant qu'en effet, il était possible d'accéder à une connaissance authentique de l'autre sans s'encombrer de théories négatives dans ce domaine. Mais Monseigneur Nédoncel est peut-être le penseur le plus convaincant, en l'occurrence, car il soutient par ses arguments, des arguments à la fois philosophiques et religieux, la certitude d'une relation directe entre les hommes. Je me référerai aussi à Bachelard, qui, dans sa préface à la psychanalyse du feu, en 1938, nous résume très simplement cette découverte. Quand il s'agit, dit Bachelard, d'examiner des hommes, des égaux, des frères, la sympathie doit être le fond de la méthode. Partons donc du principe qu'autrui existe bel et bien et qu'une communication avec lui est possible, voire certaine. C'est encore un poète, ce n'est pas Valéry, c'est Paul Claudel, qui lance en 99 dans son Art poétique que toute connaissance est une connaissance avec un seul N. Prenons appui sur ce rapide survol pour établir ici une sorte de classification des degrés de la communication en partant du niveau le plus bas pour atteindre en 3 degrés successifs la véritable essence de la communication elle-même. Roland Barthes a bien décrit le degré zéro de l'écriture. Examinons, si vous le voulez bien, le cas où il est impossible de communiquer, le degré zéro de la compréhension entre les hommes. Votre regretté confrère Raymond Boudon avait publié une petite sociologie de l'incommunication, c'est exactement les termes, dans une revue, la revue Hermès, parue au CNRS, volume 4, en 1989. L'incommunication nous ramène à une sorte d'autisme, voire de solipsisme, de nouveau, où l'on ne peut correspondre avec qui que ce soit, où l'on se trouve emmuré dans sa solitude. Cette torture abominable constitue une forme pathologique de la communication, où personne ne peut sortir de soi-même pour communiquer avec autrui. J'ai, pour ma part, publié en 1985 un petit essai sur l'incommunication chez Vrin, auquel votre académie avait attribué en son temps le prix Louis Liard, que m'avait remis à l'époque votre confrère Raymond Paulin. Les grandes sociétés modernes nous donnent parfois cette image d'une incommunication à la fois interne et externe, d'un emprisonnement dans des cases infranchissables, étanches. Cette communication peut aussi se présenter sous une toute autre forme. C'est un état de grâce affective, parfois, où l'on ne communique pas par des mots, mais seulement par des affects, par des échanges non intelligibles par les autres, mais qui n'en sont pas moins réels. On peut communiquer sans que notre entourage s'en rende compte par des signes imperceptibles, mais ressentis par instinct ou par des sensations corporelles. Si la communication se ressent chez deux êtres, est-on encore en présence d'une incommunication ? Le débat reste ouvert. En tout cas, premier degré de la communication, proprement dite, le premier degré est lui-même beaucoup plus simple, voire superficiel. Nous sommes au niveau du sens commun. La communication reste empirique, élémentaire, primaire. Exemple, deux voisins se rencontrent et vont communiquer en se saluant et en commentant la température ambiante, puis sont quittés rapidement. C'est le niveau le plus bas de la communication. Elle n'a qu'un intérêt très limité, je l'avoue. Deuxième degré, second degré de la communication. Passons à la communication discursive, intellectuelle, rationnelle. Ce terrain sera beaucoup plus riche et infiniment plus varié. Tentons d'en saisir différents aspects, on ne peut pas être exhaustif dans ce domaine. Commençons par la communication scientifique, qu'il s'agisse de mathématiques, de physique ou de biologie. Cette communication ne relève évidemment pas des sciences morales et politiques. Renvoyons-la dans une autre direction, vers celle de l'Académie des sciences. Il existe une communication politique, et c'est déjà beaucoup plus dans notre domaine. D'un haut niveau moral et intellectuel, des hommes politiques, comme l'ont été les Hugo, les Jaurès ou les De Gaulle, ont pratiqué avec talent ce genre délicat. Malheureusement, la communication politique se situe très rarement à ce haut niveau, à ce niveau élevé. Et si elle descend à sa place habituelle, elle se commet le plus souvent avec la propagande et nous tombons alors dans un dévoiement de la communication où sont tombés les Joseph Goebbels pour le nazisme ou les Joseph Staline pour la communication soviétique, ce qui va entraîner 6 millions de morts d'innocentes victimes pour le premier, ou des milliers de goulags où seront enfermés les opposants au régime communiste, sans compter les fusillades de dizaines de milliers d'adversaires du régime en URSS. Nous vivons aujourd'hui une communication politico-religieuse avec le salafisme et le djihadisme très éloignée des enseignements du Coran et d'une extrême dangerosité. Ce sectarisme, cette propagande fanatisée condamne la communication politique. Elle ne saurait en aucun cas avoir le moindre droit de citer dans les sciences morales et politiques. C'est le siège de toutes les perversions les plus graves, d'une communication mensongère, calomniatrice, instrumentalisée, fanatisée et fortement raciste aussi. Que penser de la communication commerciale ? Alors, autre aspect de la communication discursive. Et même plus précisément, la communication publicitaire. Symétrique de la propagande politique, la réclame, née selon l'ouvrage de Maurice Lévy, « Les 100 mots de la communication », en 1859, morte peut-être à la naissance de Publicis en 1926 grâce à Marcel Besson-Blanchet, est-ce bien sûr. Certes, aujourd'hui, toutes les agences de publicité s'appellent agences de communication, signe que le mot « publicité » maintient côté péjoratif lié à la recherche de profit d'un aspect lucratif ou particulièrement commercial. Citons ici un ouvrage qui me paraît personnellement capital, c'est traduit en français en 1952, c'est « Le viol des foules » par la propagande politique de Chacotin, qui a donc vu sa traduction française en 1952 chez Gallimard avoir un immense succès. C'est un petit peu ancien, mais c'est toujours aussi vrai. Je serais plus nuancé à l'égard de la communication publicitaire qui, quand elle se réalise avec probité, pourrait avoir droit de cité dans les sciences morales et politiques. Mais par rapport à la communication politique qui, elle, quand elle tombe dans la propagande, est indéfendable. La publicité joue un rôle majeur dans l'activité économique d'un pays, mais il serait juste d'examiner au cas par cas les campagnes publicitaires honnêtes et celles qui ne sont pas dignes de tout éloge. Il reste que dans ce domaine, des formes de communication, des communications discutables où le consommateur ne trouve pas toujours son compte. On pourrait multiplier les catégories de communication et pourrait parler aussi de la communication économique, la communication sociologique, littéraire. On pourrait parler aussi de la communication nationale ou internationale et même évidemment de la communication technologique. Alors c'est un immense champ d'application dans lequel je ne m'aventurerai pas, n'étant pas spécialiste de ces techniques nouvelles dont on serait par ailleurs minimiser l'importance de certaines formes comme la communication digitale. L'Académie française recommande d'employer le mot digital ou le mot numérique. Elle comporte le web, les médias sociaux, le mobile, bien entendu Internet et les fameux réseaux sociaux. L'avenir de cette nouvelle forme de la communication est incontestable et en pleine expansion. Il serait absurde de vouloir limiter son domaine aux connaissances strictement actuelles. La communication est un champ, immense champ de possibilités et son avenir me paraît d'une richesse incalculable. Dans 20 ans, on ne parlera plus du tout de la communication comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Mais il reste un domaine où la communication actuelle ne se démodera pas. C'est ce que j'appellerais pour ma part son troisième degré. Le troisième degré nous permet enfin d'aborder les rives plus calmes de la communication transcendantale, qui peut être psychanalytique ou encore phénoménologique, ou dit encore ontologique par certains. Nous quittons le rationnel pour l'affectif, la communication compréhensive ou sympathisante se développe entre des personnes d'un même niveau socioculturel. Je pense même que certaines communications animales peuvent se présenter sous une apparence très chaleureuse, en particulier dans la relation des animaux entre eux ou dans des rapports amoureux de nombreuses espèces. Il est devenu banal aujourd'hui, contrairement à l'ère cartésienne où l'on parlait d'animaux-machines, de soutenir que les animaux peuvent être des personnes, comme l'a remarquablement souligné le journaliste François-Olivier Gisbert dans un livre récent, L'animal est une personne. L'humanisme ou l'anthropocentrisme rapproche les animaux et les hommes et constitue une des données essentielles de la véritable communication telle que nous l'entendons. Cette relation homme-animal, animal domestique même aussi, devient de plus en plus humaine au point de parvenir parfois à un langage commun entre l'homme et son animal de compagnie. La communication linguistique a tendance à se raréfier devant des phénomènes sociologiques nouveaux, comme le téléphone portable ou l'usage de l'ordinateur. Une époque nouvelle est née, qui se sert d'onomatopées ou d'abréviations qu'utilisent notamment les adolescents, reste une donnée de base de la communication, la chaleur humaine, l'affectivité, la sympathie préalable dont parlait Bachelard dans ses rapports humains. S'il y a eu depuis 20 ans une explosion de la communication avec tous les excès qu'elle a entraîné et développé, il y a un esprit de communication qui est né avec elle et qui nous rapproche considérablement les uns des autres. C'est de ce côté qu'il faut se tourner. Le philosophe Gabriel Marcel, qui fut d'ailleurs votre confrère naguère, insistait sur la communication métaphysique qui pouvait avoir lieu, qui pouvait exister entre, par exemple, une mère et son fils. Il avait été témoin de nombreux cas de télépathie pendant la Première Guerre mondiale, et au moment précis où le soldat tombait au front, sous l'ennemi, sous le feu de l'ennemi, sa mère s'évanouissait à l'instant précis où se passait ce horrible accident. Et je pencherais pour ma part, pour assimiler cette forme de communication télépathique et sympathisante à une communication authentique, très au-dessus des deux degrés inférieurs et antérieurs. Cette communication transcende en effet les personnes pour atteindre une sorte d'absolutisme qui la situe au plus haut degré des rapports entre les êtres. Nous ne sommes plus ici dans l'empirisme ni dans le rationalisme, mais dans ce que Sartre appelait l'ontologie phénoménologique. Il s'agit du plus haut degré de la connaissance humaine, donc de la communication au sens le plus élevé du terme. Je ne saurais augurer de l'avenir, mais tentons maintenant, excusez-moi, de répondre à la question initiale posée au titre de cet exposé. Oui, la communication mérite absolument d'être tenue pour une des sciences humaines, sciences morales ou sociales, au même titre que la psychologie, la sociologie ou la géographie humaine. Qu'il existe une science de la communication est indéniable, mais certains excès de la communication, bien entendu, étaient placés parfois hors du champ de cette science rigoureuse. Le fait qu'aujourd'hui des sections universitaires entières se soient créées dans toutes les universités françaises, dans toutes les facultés, information et communication préparant à la licence, la maîtrise et au doctorat, et même, bien entendu, dans beaucoup de facultés étrangères. Et la communication est donc un fait établi, évident, certain. L'autre aspect du problème concerne votre académie. Est-elle prête à accueillir des spécialistes de la communication ? La question mérite-t-elle d'être posée. Dans 20 ans, les diplômés de ces universités auront peut-être droit de citer à l'Académie des sciences morales et politiques si leurs travaux méritent de figurer parmi les œuvres consacrées par votre compagnie. Je ne saurais augurer de l'avenir, bien entendu, mais cette éventualité me paraît tout à fait possible, sinon probable. Si vous me permettez d'extrapoler un peu, j'ajouterai qu'il y a quelques années, l'Institut de France ignorait, au niveau de ses propres services, la communication en tant que telle. Aujourd'hui, l'Institut possède, aux côtés de ses 8 services classiques, traditionnels, on parlait tout à l'heure de Chantilly, enfin, toutes ces fondations, etc., enfin, il y en avait 8, un nouveau bureau, un nouveau service, celui dit de la communication, ce qui était le cas aussi pour l'armée, où il y avait 4 bureaux et où un 5e bureau a été créé pendant la guerre d'Algérie, l'action psychologique, et qui ressemble un peu à la communication aussi. Cela me paraît de bon augure, sinon un critère absolument certain de ce droit de cité de la communication au sein de votre compagnie. Si elle s'ouvre dans l'avenir à de bons communicants, la communication authentique aura gagné la partie. Si l'Académie refuse l'accès en son sein à de brillants communicateurs, on pourra reconnaître que cette partie aura été perdue et mon pronostic sera tenu pour faux. Car je crois sincèrement, pour ma part, que sans la communication, il n'est point de progrès possible pour l'humanité.